18. Les premiers à paraître furent trois briseurs, courant à perdre haleine, les bras levés. Ils traversèrent ainsi la rue sans apercevoir Eddie, qui se trouvait dans la guérite du bijou. Il avait fait éclater les vitres sur les trois côtés avec la crosse en bois de santal de son pistolet, autrefois celui de Roland. Ou Jake, assis dans une berline Ford sans moteur garée devant la boulangerie de Pleasantville. Ou encore Roland lui-même, camouflé par un mannequin dans la vitrine du mode Gay Paris. Ils atteignirent l'autre trottoir et regardèrent autour d'eux, désemparés. « Allez-y, » leur envoya Roland en pensée. « Partez d'ici, prenez la ruelle, partez tant que vous le pouvez encore. »
« Allons-y !» hurla l'un d'entre eux.
Et alors ils se mirent tous à descendre en courant la ruelle entre l'épicerie et la librairie. Il en apparut un autre, puis deux. Puis le premier du groupe de gardes, un hume armé d'un pistolet qu'il tenait à hauteur de son visage, terrifié, aux yeux écarquillés. Roland l'aperçut et retint ses balles. Les employés du devoir continuèrent d'affluer, déboulant entre les bâtiments dans la rue principale. Ils se dispersèrent en tous sens. Comme Roland l'avait attendu et espéré, ils tentaient d'encadrer les pensionnaires et d'endiguer leur flot, essayant d'empêcher leur retraite de virer en débâcle.
« Formez deux colonnes !»
hurlait un taïn à tête de corbeau à bout de souffle, d'une voix sourde.
« Formez deux colonnes et retenez-les entre les deux, au nom de vos pères !»
L'un des autres, un taïn roux avec la chemise qui claquait au vent, se mit à brailler.
« Et la clôture, Jacqueline ? Qu'est-ce qu'on fait s'ils foncent sur la clôture ?
Ça, on ne pourra rien y faire, Cag. Seulement... »
Un briseur hurlant à plein poumon passa en courant devant le corbeau, et ce dernier, Jacqueline, lui donna un coup d'une telle force que le malheureux s'étala de tout son long au milieu de la rue.
« Restez groupés, bande d'asticots !»
vociféra-t-il.
« Courez si ça vous chante, mais faites-le avec un minimum de discipline !»
Comme s'il pouvait être question de discipline au milieu d'un carnaval pareil, se dit Roland, non sans une certaine satisfaction. Puis au roux, celui du nom de Jacqueline cria
« Les sangris, un ou deux, les autres les verront, ça les arrêtera !»
Les choses allaient se compliquer si Eddie ou Jake se mettaient à tirer maintenant. Mais ils ne bougèrent pas. Les trois pistoleros observaient depuis leurs cachettes respectives, tandis qu'une forme d'ordre naissait peu à peu du chaos. D'autres gardes apparurent. Jacqueline et le rouquin les dirigèrent en deux colonnes, qui formèrent un couloir de la largeur approximative de la rue. Quelques briseurs leur échappèrent avant que le couloir fût complètement imperméable, mais quelques-uns seulement. Un nouveau taïn apparut, à tête de fouine celui-là, qui prit le commandement des mains de Jacqueline. Il frappa un ou deux briseurs dans le dos pour leur faire accélérer la cadence. De l'extrémité sud de la rue principale monta un cri désemparé.
« La clôture est coupée !»
Puis un autre,
« Je crois que les gardes sont morts !»
Lequel cri fut suivi d'un hurlement d'horreur, et Roland sut aussi clairement que s'il l'avait vu de ses yeux, qu'un briseur malchanceux venait de buter sur la tête tranchée d'un garde qui avait roulé dans l'herbe. Le bredouillement terrifié résonnait toujours au loin quand Dickie Earnshaw et Ted Brottigan apparurent entre la boulangerie et le magasin de chaussures. Si près de la cachette de Jake qu'il aurait pu les toucher en tendant le bras par la vitre de sa portière. Ted s'était fait toucher au bras. Sa manche de chemise droite était imbibée de rouge du coude jusqu'au poignet, mais il avançait toujours, avec un peu d'aide de la part de Dinky, qui avait passé le bras autour de lui. Tandis qu'ils traversaient tous deux en courant le groupe hostile des gardes, Ted se retourna et adressa un regard droit en direction de la cachette de Roland, et le maintint quelques secondes. Puis lui et Earnshaw disparurent dans la ruelle. Ils étaient donc en sécurité, du moins pour le moment, et c'était une bonne chose. Mais où était le gros bonnet? Où se trouvait Prentice, le responsable de ce lieu monstrueux? Roland les voulait tous les deux, lui et cette face de fouine là-bas, couper la tête du serpent et le serpent meurt. Mais il ne pouvait pas se permettre de rester trop longtemps embusqué. Le flot de briseurs en fuite se tarissait. Le pistolero ne pensait pas que ça et la fouine attendraient les traînards. Il voudrait empêcher ses précieux pensionnaires de se faufiler par la clôture ouverte. Il savait qu'ils n'iraient pas loin, vu la campagne stérile et lugubre qui les entourait, mais il savait sans doute aussi que, s'il y avait des attaquants au nord du complexe, il y aurait peut-être des sauveteurs les attendant au... Et il déboula enfin, merci aux dieux et à Gan, Sai Pimli Prentice, titubant, blessé, et à l'évidence en état de choc, son croc de débardeur chargé se balançant d'avant en arrière sous son bras charnu. Du sang coulait de l'une de ses narines et du coin de son œil, comme si toute cette excitation avait provoqué la rupture d'une artère quelconque à l'intérieur de sa tête. Il se dirigea vers la fouine en vacillant légèrement de droite à gauche. Ce vacillement d'ivrogne que Roland regretterait de toute son âme en pensant à l'issue finale de cette matinée, dans l'intention sans doute de prendre les opérations en main. Leur accolade, brève mais pleine d'ardeur, visant à donner du réconfort et à en recevoir de l'autre, dit à Roland tout ce qu'il avait besoin de savoir de leur relation. De son arme, il visa l'arrière du crâne de Prentice, appuya sur la détente et regarda voler le sang mêlé de cheveux. Les mains du maître se tendirent vers le ciel, doigts écartés sur fond de ténèbres, puis il s'écroula pratiquement aux pieds de la fouine abasourdie. Comme en réponse, le soleil atomique s'alluma, baignant le monde de lumière. « Heil, pistolero !» « Tuez-les tous !» cria Roland en éventant la gâchette de son revolver, cette machine à meurtre antique du plat de sa main droite. Quatre étaient tombés sous ses balles avant que les gardes, alignés comme autant de pigeons d'argile dans un stand de tir, aient enregistré ses coups de feu, sans parler d'avoir la moindre réaction. « Pour Gilead, pour New York, pour le rayon, pour vos pères !» Entendez-moi, entendez-moi bien. N'en laissez pas un debout. Tuez-les tous. Et c'est ce qu'ils firent. Le pistolero de Gilead, l'ancien drogué de Brooklyn, l'enfant esselé autrefois connu de Madame Greta Shaw sous le nom de Bama. Venant du sud, derrière eux, traversant sur son TCS des banderoles de fumée qui allaient en s'épaississant, ne déviant de sa trajectoire rectiligne qu'une seule fois pour éviter le cadavre aplati d'une certaine Tammy, surgit un quatrième personnage. Celle autrefois rompue aux techniques de contestation pacifique et qui avait aujourd'hui embrassé totalement et sans l'ombre d'un regret la voie du fusil. Susanna repéra trois gardes hume qui traînaient et un taïn en fuite. Ce dernier portait une mitraillette à l'épaule, mais ne fit pas mine de l'attraper. Il se contenta de lever ses bras au poil abondant et lustré. Sa tête rappelait vaguement celle d'un ours et supplia qu'on l'épargnât. N'oubliant pas tout ce qui s'était passé ici. Surtout pas que des cerveaux d'enfants réduits en purée avaient été servis aux tueurs de rayons pour maintenir leur rentabilité maximale. Susanna décida d'ignorer sa requête, mais ne lui laissa cependant pas le temps de craindre pour sa vie. Le temps qu'elle descende la ruelle entre le cinéma et le salon de coiffure, la fusillade avait cessé. Finley et Jacqueline étaient mourants. James Cagney était mort. Son masque d'hume à moitié arraché de sa tête de rat répugnante. Et à leur côté gisaient trois douzaines de leurs congénères, tout aussi morts. Leur sang engorgeait les caniveaux auparavant immaculés de Pleasantville. Il y avait encore des gardes dans le complexe, à n'en pas douter. Mais pour l'instant, ils étaient à couvert, persuadés qu'ils étaient de subir l'assaut d'une centaine au moins de tueurs chevronnés, des pirates débarqués de Dieu savait où. La majorité des briseurs d'Algul Siento se trouvaient sur la zone gazonnée entre l'arrière de la rue principale et les tours de guet sud, agglutinés comme les moutons qu'ils étaient. Insoucieux de son bras en sang, Ted avait déjà commencé à prendre les choses en main et à faire l'appel. Puis tout le contingent nord de l'armée des écumeurs apparut au bout de la ruelle, près du cinéma. Une femme noire, court-jambe, montait sur un tricycle tout-terrain. D'une main, elle conduisait, de l'autre maintenait la mitraillette Coyote en équilibre sur le guidon. Elle aperçut les cadavres empilés dans la rue et hocha la tête d'un air satisfait mais peu réjoui. Eddie surgit de la guérite et la prit dans ses bras.
Hé, trésor,
murmura-t-elle en lui glissant des baisers dans le cou, avec une sensualité qui le fit frissonner. Puis Jake apparut, ayant perdu ses couleurs du fait du massacre, mais calme. Et elle passa le bras autour de ses épaules pour l'attirer contre elle. Son regard croisa incidemment celui de Roland, debout, sur le trottoir, derrière les trois qu'ils avaient tirés vers l'entre-deux-mondes. Son arme pendait contre sa cuisse gauche. Et avait-il conscience de cette expression d'envie sur son visage? S'en rendait-il compte une seule seconde? Elle en doutait, et son cœur s'élança vers lui.
« Viens ici, Gilead, » dit-elle. « C'est une embrassade de groupe, et tu fais partie du groupe. »
L'espace d'une seconde, elle crut qu'il n'avait pas compris l'invitation, ou bien qu'il faisait semblant de ne pas comprendre. Puis il s'approcha, prenant seulement le temps de rengainer son arme et d'attraper Othé. Il se glissa entre Jake et Eddie. Othé sauta sur les genoux de Susanna comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle au monde. Puis le pistolero passa un bras autour de la taille d'Eddie et l'autre autour de celle de Jake. Susanna tendit les bras vers le haut, temporairement déstabilisée. Le bafouilleux se mit à chercher un appui en une petite danse comique et les enroula autour du cou de Roland, venant déposer un baiser chaleureux sur son front tanné par le soleil. Jake et Eddie éclatèrent de rire. Roland se joignit à eux, et sur ses lèvres se dessina le sourire de ceux que le bonheur vient de prendre par surprise. « J'aimerais que vous les regardiez bien, réunis ainsi. Je voudrais que vous les regardiez attentivement. Vous le voulez bien ?» Ils sont tous collés autour du TCS, à fêter leur victoire par une grande embrassade. Je voudrais que vous les regardiez ainsi. Non pas parce qu'ils viennent de remporter une grande bataille, ils ne sont pas dupes, aucun d'eux ne l'est. Mais parce qu'en cet instant, ils sont un quatette pour la dernière fois. C'est ici que s'achève l'histoire de leur confrérie. Dans cette rue fabriquée de toutes pièces et sous ce soleil artificiel. La suite du récit sera courte et brutale comparée à tout ce qui est survenu auparavant. Car lorsqu'un quatête est brisé, la fin est toujours proche. Grand pardon. 19. Bimli Prentice vit de ses yeux mourants et encroûtés de sang le plus jeune des deux hommes se détacher du groupe et s'approcher de Finley Otego. Le jeune homme s'aperçut que Finley bougeait toujours et il se baissa vers lui, posant un genou au sol. La femme, à présent descendue de son tricycle à moteur, ainsi que le garçon, se mirent à faire le tour de leurs victimes et à abattre les rares encore en vie. Même en train de mourir lui-même d'une balle dans la tête, Pimli y vit de la pitié plutôt que de la cruauté. Et lorsque le travail serait terminé, Pimli se dit qu'il se retrouverait sans doute le reste de leurs amis lâches et sournois pour fouiller les bâtiments d'Algul Siento encore debout afin de débusquer les gardes qui restaient et de les descendre sur le champ. Vous n'en trouverez pas beaucoup, mes amis les chiens couards, pensa-t-il. Vous venez de balayer les deux tiers de mes hommes ici même.
Et combien de ces attaquants, maître Pimli, le chef de la sécurité Finley et leur équipe, avaient-ils rayé de la carte en retour? Pour ce qu'en savait Pimli, pas un seul. Mais peut-être pouvait-il remédier à cette situation. Sa main droite entama son lent et douloureux voyage jusqu'au croc de débardeur et le pacemaker qui était logé. Pendant ce temps, Eddie avait posé le canon du revolver de Gilead à crosse en bois de santal contre la tempe de la fouine. Son doigt appuyait déjà sur la détente lorsqu'il vit la fouine, bien que saignant abondamment de la poitrine et à l'article de la mort, le regardait avec une conscience limpide. Il vit aussi autre chose. Quelque chose qu'il n'aima pas beaucoup et qu'il prit pour du mépris. Il leva les yeux, vit Susanna et Jack en train d'inspecter les corps à l'est du champ de bataille, vit Roland là-bas sur le trottoir, discutant avec Ted et Dinky tout en nouant un bandage de fortune autour du bras du premier. Les deux anciens briseurs l'écoutaient avec attention et bien qu'arborant tous deux un air dubitatif, il hochait la tête. Eddie reporta son attention sur le Taïn mourant.
« T'es au bout du sentier, mon ami, » dit-il. « Au fond du puits, je dirais. As-tu quelque chose à dire avant d'entrer dans la clairière ?»
Finley fit oui de la tête.
« Dis-le alors, mon pote, mais si tu veux aller jusqu'au bout, à ta place, je la ferai courte. »«
Toi et les tiens... » « N'êtes qu'une meute de chiens couards, »
réussit à articuler Finley.
Il était probablement blessé au cœur. C'était l'impression qu'il avait, du moins. Mais il fallait qu'il dise ce qu'il avait à dire. Il fallait que ce soit dit, et il exhorta son cœur affaibli à tenir jusqu'au bout. Puis il mourrait et accueillerait les ténèbres avec soulagement.
Des chiens couards, puant la pisse, qui tuent des hommes en traîtres. Voilà ce que j'ai à dire.
Eddie eut un sourire sans joie.
Et qu'est-ce que tu penses de chiens couards qui se serviraient d'enfants pour tuer en traîtres le monde entier, mon ami? L'univers tout entier?
La fouine plissa les yeux, comme s'il ne s'était pas attendu à une réponse de ce genre. À aucune réponse même.
J'avais des ordres.
Je n'ai aucun doute là-dessus, et tu les as suivis jusqu'au bout. Amuse-toi bien en enfer, Anar, quel que soit le nom que tu lui donnes.
Il appuya le canon de son arme contre la tempe de Finley et pressa la détente. La fouine eut un sursaut, un seul, puis s'immobilisa. Eddie se releva en grimaçant. Du coin de l'œil, il aperçut du mouvement et vit qu'un autre, le patron du cirque, avait réussi à se hisser sur un coude. Et il levait son arme, le pacemaker 40 qui avait autrefois exécuté un violeur. Eddie avait des réflexes rapides, mais il n'eut pas le temps de le vérifier. Le pacemaker vrombit une fois, faisant gicler le feu et le sang jaillit du front d'Eddie Dean. Une boucle de cheveux se souleva sur sa nuque au moment où la balle ressortait. Il plaqua la main sur le trou qui était apparu juste au-dessus de son œil droit, comme s'il venait de se rappeler soudain une chose capitale, mais un poil trop tard. Roland pivota sur les talons éculés de ses bottes, dégainant son propre revolver en un mouvement trop rapide pour l'œil. Jake et Susanna se retournèrent eux aussi. Susanna vit son mari, debout au milieu de la rue, la main appuyée contre le front.
Eddie? Trésor?
Pimli se débattait pour réarmer son revolver, la lèvre supérieure relevée comme un chien découvrant les babines dans l'effort.
Roland lui tira une balle dans la gorge et le maître d'Algul Siento bascula sur le côté gauche, son pistolet encore chaud volant de sa main pour aller s'écraser avec un bruit métallique près du corps de son ami Lafouine. Il s'arrêta presque au pied d'Eddie.
Eddie !
Hurla Susanna en se mettant à ramper vers lui, se hissant sur les mains avec fureur.
Il n'est pas trop gravement blessé,
se dit-elle.
Non, pas gravement. Mon Dieu, faites que mon homme ne soit pas gravement blessé.
C'est alors qu'elle vit le sang couler entre ses doigts serrés et goûter sur la poussière de la rue, et qu'elle sut que c'était grave.
Suze ?
Appela-t-il, la voix parfaitement claire.
Suzy ? Où es-tu ? Je n'y vois rien.
Il avança d'un pas, puis de deux, de trois, et s'écroula face au sol. Tout comme l'avait prévu le grand-père Jaffords, si fait, dès l'instant où il avait posé les yeux sur lui. Car ce garçon était un pistolero, vrai, et c'était la seule fin possible pour un homme tel que lui.